Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Première partie, la vie. Ramener l'esprit en lui-même. Les pensées et les émotions. Les vagues de l'océan. Quand les gens commencent à méditer, ils se plaignent souvent que leurs pensées se déchaînent. Qu'elles n'ont jamais été aussi incontrôlables. Je les rassure en leur disant que c'est bon signe. En effet, loin de signifier que vos pensées sont plus déchaînées, cela montre que vous êtes devenu plus calme. Vous prenez finalement conscience de combien vos pensées ont toujours été bruyantes. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Quelle que soit la pensée qui s'élève, continuez simplement à demeurer présent à vous-même. Revenez constamment à votre respiration, même au beau milieu de la confusion. Dans les instructions anciennes sur la méditation, il est dit qu'au début, les pensées se précipitent les unes après les autres, sans interruption, comme une cascade dévalant la pente escarpée d'une montagne. À mesure que vous progressez dans la pratique de la méditation, les pensées deviennent semblables à un torrent collant, coulant dans une gorge profonde et étroite, puis un fleuve déroulant lentement ses méandres jusqu'à la mer. Enfin, l'esprit ressemble à un océan calme et serein, que trouble seulement de temps à autre une ride ou une vague. Certaines personnes pensent que lorsqu'elles méditent, elle ne devrait avoir aucune pensée, aucune émotion. Si pensée ou émotion se manifeste, cela les contrarie, les fâche contre elles-mêmes et les persuade qu'elles ont échoué. Rien n'est moins vrai, ainsi que le dit un proverbe tibétain. C'est beaucoup demander que de vouloir de la viande sans os. Et du thé sans feuilles. Tant que vous aurez un esprit, des pensées et des émotions s'élèveront. De même que l'océan a des vagues et le soleil des rayons, ainsi les pensées et les émotions sont-elles le propre rayonnement de l'esprit. L'océan a des vagues, pourtant il n'est pas particulièrement dérangé par elles. Les vagues sont la nature même de l'océan. Les vagues se dressent, mais où vont-elles? Elles s'en retournent à l'océan. D'où ces vagues viennent-elles? De l'océan. De même, les pensées et les émotions sont le rayonnement et la manifestation de la nature même de l'esprit. Elles s'élèvent de l'esprit. Mais où se dissolvent-elles? Dans l'esprit. Quelle que soit la pensée ou l'émotion qui surgit, ne la percevez pas comme un problème particulier. si vous n'y réagissez pas de façon impulsive, mais demeurez simplement patient, elle se déposera à nouveau dans sa nature essentielle. Quand vous comprenez ceci, les pensées qui s'élèvent ne peuvent qu'enrichir votre pratique. Mais tant que vous ne réalisez pas quelle est leur nature intrinsèque, le rayonnement de la nature de votre esprit, elles deviennent les germes de la confusion. Entretenez donc envers vos pensées et vos émotions une attitude bienveillante, ouverte et généreuse, car vos pensées sont en fait votre famille, la famille de votre esprit. Dzogchen Rinpoche avait coutume de dire « Soyez à leur égard comme un vieil homme sage qui regarde jouer un enfant. » Bien souvent, l'on ne sait que faire de sa négativité ou de certaines émotions perturbatrices. Dans le vaste espace de la méditation, il est possible d'adopter une attitude tout à fait impartiale envers pensées et émotions. Quand votre attitude change, c'est l'atmosphère tout entière de votre esprit qui s'en trouve modifiée, y compris la nature même de vos pensées et de vos émotions. Lorsque vous devenez plus conciliant, elles le deviennent aussi. Si vous n'avez pas de difficultés avec elles, elles n'en auront pas davantage avec vous. Quelles que soient les pensées et les émotions qui se manifestent, laissez-les donc s'élever puis se retirer, telles les vagues de l'océan. Permettez-leur d'émerger et de s'apaiser, sans contrainte aucune. Ne vous attachez pas à elles. Ne les alimentez pas. Ne vous y complaisez pas. N'essayez pas de les solidifier. Ne poursuivez pas vos pensées. Ne les sollicitez pas non plus. Soyez semblable à l'océan, contemplant ses propres vagues, ou au ciel, observant les nuages qui le traversent. Vous vous apercevrez vite que les pensées sont comme le vent. Elles viennent, puis s'en vont. Le secret est de ne pas penser aux pensées, mais de les laisser traverser votre esprit, tout en gardant celui-ci libre de commentaires mentaux. Dans l'esprit ordinaire, nous percevons le flot de nos pensées comme une continuité. Mais en réalité, tel n'est pas le cas. Vous découvrirez par vous-même qu'un intervalle sépare chaque pensée de la suivante. Quand la pensée précédente est passée et que la pensée suivante ne s'est pas encore élevée, vous trouverez toujours un espace dans lequel Rigpa, la nature de l'esprit, est révélée. La tâche de la méditation est donc de permettre aux pensées de ralentir afin que cet intervalle devienne de plus en plus manifeste. « Mon maître avait un étudiant indien du nom d'Apapant. C'était un écrivain et un diplomate distingué qui avait occupé le poste d'ambassadeur de l'Inde dans les capitales de nombreux pays. Il avait même été le représentant du gouvernement indien à Lhasa, la capitale du Tibet. Il avait également exercé ses fonctions pour un temps au Sikkim. Il pratiquait par ailleurs la méditation et le yoga. Et chaque fois qu'il voyait mon maître, il ne manquait pas de lui demander comment méditer. Il était en cela fidèle à une tradition orientale selon laquelle l'élève pose sans relâche au maître une simple et unique question fondamentale. Apapant m'a raconté l'histoire suivante. Un jour, notre maître Jamyang Khyentse assistait à une danse rituelle de lama devant le temple du palais de Gangtok, la capitale du Sikkim. Il s'égayait des bouffonneries de Latsara, le clown assurant les intermèdes comiques entre les danses. Apapant continuait à le harceler, lui demandant sans répit comment méditer. Tant et si bien que cette fois, lorsque mon maître lui répondit, ce fut d'une manière telle qu'il sut que la réponse était définitive. Écoute-moi bien, c'est ainsi. Quand la pensée précédente est passée et que la pensée future ne s'est pas encore élevée, n'y a-t-il pas là un intervalle ? Lui répondit Apapant. Eh bien, prolonge-le, c'est cela la méditation. Les expériences. Sans doute connaîtrez-vous au cours de votre pratique toutes sortes d'expériences, bonnes et mauvaises, de même qu'une pièce possédant de nombreuses portes et fenêtres permet à l'air de circuler librement. Ainsi en est-il naturel. Lorsque votre esprit commence à s'ouvrir, que toutes sortes d'expériences puissent s'y produire. Peut-être connaîtrez-vous des états de félicité, de clarté ou d'absence de pensée. D'une certaine façon, ce sont là d'excellentes expériences et le signe que votre méditation progresse. Quand vous ressentez la félicité, c'est signe que le désir s'est provisoirement évanoui. Quand vous ressentez une réelle clarté, c'est le signe que l'agressivité a momentanément cessé. Et quand vous faites l'expérience d'un état sans pensée, c'est signe que votre ignorance a temporairement disparu. Ce sont de bonnes expériences en soi. Mais si l'attachement s'en mêle, elle se transforme en obstacle. Les expériences ne sont pas en elles-mêmes la réalisation. Cependant, si nous ne nous attachons pas à elles, elles deviennent ce qu'elles sont en réalité, des matières premières pour la réalisation. Les expériences négatives sont souvent les plus trompeuses, parce que nous les interprétons généralement comme un mauvais signe. Pourtant, malgré les apparences, elles sont une bénédiction dans la pratique. Efforcez-vous de ne pas y réagir par l'aversion, comme vous pourriez normalement être tenté de le faire. Mais reconnaissez-les pour ce qu'elles sont véritablement. De simples expériences, aussi illusoires qu'un rêve. Réalisez la nature véritable des expériences vous libère du mal ou du danger qu'elles pourraient représenter. Par conséquent, même une expérience négative peut devenir une source de grande bénédiction et d'accomplissement. Il existe d'innombrables histoires relatant la façon dont les maîtres ont ainsi tiré parti de leur expérience négative pour les transformer en catalyseurs de leur réalisation. Il est dit traditionnellement que pour un pratiquant véritable, ce ne sont pas les mauvaises expériences, mais les bonnes qui créent des obstacles. Quand tout va bien, il vous faut être particulièrement vigilant et prudent. Si vous ne voulez pas devenir trop sûr de vous ou autosatisfait. Souvenez-vous de ce que Dzogchen Rinpoche m'a dit alors que j'étais au cœur d'une expérience très intense. Ne te laisse pas trop impressionner. En fin de compte, ce n'est ni bien ni mal. Il savait que je commençais à m'attacher à l'expérience et cet attachement, comme tous les autres, doit être tranché. Dans la méditation comme dans la vie, il nous faut apprendre à demeurer libre de l'attachement aux bonnes expériences et de l'aversion envers les mauvaises. Dzogchen Rinpoche nous avertit d'un autre piège. Dans votre pratique de la méditation, vous pourriez par ailleurs faire l'expérience d'un état apathique, semi-conscient, vaseux, comme si vous aviez la tête recouverte d'un capuchon. C'est une sorte de rêverie indolente. Ce n'est réellement rien d'autre qu'une sorte de stagnation trouble, un état d'absence. Comment émerger de cet état? Réveillez-vous, redressez-vous, expulsez l'air vicié de vos poumons et dirigez votre conscience vers la clarté de l'espace pour vous rafraîchir l'esprit. Tant que vous demeurerez dans cet état de stagnation, vous n'évoluerez pas. Aussi, à chaque fois que cet obstacle se produit, clarifiez votre esprit. Il est important d'être aussi attentif et vigilant que possible. Quelle que soit la méthode utilisée, renoncez-y ou laissez-la simplement se dissiper d'elle-même quand vous vous apercevrez que vous êtes parvenu à un état de paix alerte, spacieux et vif. Libre de toute distraction, demeurez tranquillement dans cet état, sans employer de méthode particulière. La méthode a déjà atteint son but. Cependant, si jamais votre esprit s'égare, si vous devenez distrait, ayez recours à la technique qui vous semble la plus appropriée pour revenir à vous-même. La gloire de la méditation n'est pas le fait d'une méthode particulière, mais de l'expérience continuellement renouvelée de présence à soi-même, dans la félicité, la clarté, la paix, et par-dessus tout, dans l'absence totale de saisie. Lorsque la saisie diminue en vous, cela montre que vous êtes moins prisonnier de vous-même. Plus vous ferez l'expérience de cette liberté, plus il deviendra manifeste que l'ego est en train de disparaître, et avec lui, les espoirs et les peurs qui le maintenaient en vie. Et plus vous vous rapprocherez de la sagesse qui réalise le non-ego d'une générosité infinie. Quand vous vivrez dans cette demeure de sagesse, vous ne percevrez plus de frontières entre le « je » et le « vous », entre ceci et cela, l'intérieur et l'extérieur. Vous aurez finalement atteint votre vraie demeure, l'état de non-dualité. Les pauses. On me demande souvent combien de temps dois-je méditer et à quel moment. Dois-je pratiquer 20 minutes le matin et 20 minutes le soir, ou plutôt plusieurs courtes sessions durant la journée? Certes, il est bon de méditer pendant 20 minutes, ce qui ne veut pas dire que cela constitue une limite. À ma connaissance, il n'est nulle part fait mention de 20 minutes dans les Écritures. Je pense que c'est là une invention occidentale, et je l'appelle la durée officielle de méditation en Occident. Ce qui importe n'est pas la durée de votre méditation, mais que votre pratique vous conduise à un certain état d'attention et de présence où vous vous sentez un peu plus ouvert et en mesure de vous relier à votre essence. 5 minutes de pratique assise, bien éveillée, valent beaucoup mieux que 20 minutes de somnolence. De John Rinpoche avait coutume de dire qu'un débutant devrait pratiquer pendant de courtes sessions. Pratiquez 4 ou 5 minutes, puis faites une pause, brève, d'une minute environ. Durant la pause, abandonnez la méthode, mais ne relâchez pas complètement votre attention. Parfois, quand la pratique s'est avérée difficile, il est étonnant de constater que c'est au moment précis où vous cessez d'appliquer la méthode que la méditation se produit en effet. Se produit en réalité, à condition toutefois de demeurer présent à vous-même et vigilant. C'est pourquoi la pause est une partie importante de la méditation. Autant que la pratique elle-même, je dis parfois à ceux de mes étudiants qui ont des difficultés avec la pratique de pratiquer pendant la pause et de faire une pause pendant leur méditation. Faites un court moment de méditation assise, puis une pause brève allant de 30 secondes à 1 minute. Demeurez alors attentif à ce que vous faites et ne perdez pas votre présence et son aisance naturelle. Puis aiguisez votre vigilance et méditez à nouveau. Si vous faites de courtes séances de ce genre, les pauses rendront souvent votre méditation plus réelle et plus inspirante. Elles éviteront la gaucherie rigide, la solennité ennuyeuse, le manque de naturel dans la pratique, et vous apporteront de plus en plus d'aisance et de concentration. Progressivement, grâce à cette alternance de pauses et de pratiques, la frontière entre méditation et vie quotidienne s'estompera. Le contraste entre les deux s'évanouira et vous vous trouverez de plus en plus dans l'état de pure présence naturelle, sans distraction. Alors comme Dejong Rinpoche disait souvent, même si le méditant abandonne la méditation n'abandonnera pas le méditant. L'intégration, la méditation dans l'action. Je me suis aperçu qu'aujourd'hui, ceux qui s'engagent dans une voie spirituelle ne savent pas toujours comment intégrer la pratique de la méditation dans leur vie quotidienne. Je n'insisterai jamais assez sur ce point, la raison d'être, l'intérêt et le but tout entier de la méditation sont d'intégrer celle-ci dans l'action. La violence et les tensions, les défis et les distractions de la vie moderne rendent cette intégration d'autant plus urgente et nécessaire. Certaines personnes se plaignent à moi en ces termes. Je médite depuis 12 ans et pourtant rien n'a changé. Je suis resté le même. Pourquoi ? La raison est qu'un abîme sépare leur pratique spirituelle de leur vie quotidienne, qui semble exister dans deux mondes distincts, sans aucunement s'inspirer l'une de l'autre. Cela me rappelle un professeur que je connaissais lorsque j'étais à l'école au Tibet. Il pouvait brillamment exposer les règles de la grammaire tibétaine, mais savait à peine écrire une phrase correcte. Comment donc parvenir à cette intégration ? Que faire pour imprégner notre vie quotidienne de l'humour tranquille et du détachement spacieux de la méditation ? Rien ne peut remplacer la pratique régulière. En effet, c'est seulement par une pratique véritable que nous pourrons savourer sans interruption le calme de la nature de notre esprit et en prolonger l'expérience dans notre vie de tous les jours. Je recommande toujours à mes étudiants de ne pas sortir trop vite d'une séance de méditation. Accordez-vous quelques minutes pour que la paix née de la pratique s'infiltre dans votre vie. Ne vous levez pas d'un bond, disait Maître Dzogchen Rinpoche. Ne partez pas trop vite, mais laissez votre vigilance s'intégrer à votre vie. Soyez comme un homme qui souffre d'une fracture. Il demeure toujours attentif à ce que personne ne le heurte. Après la méditation, il est important de ne pas céder à la tendance consistant à solidifier notre perception du monde. Quand vous revenez à votre existence quotidienne, permettez à la sagesse, à la vision profonde, à la compassion, à l'humour, à l'aisance, à la largeur d'esprit et au détachement né de la méditation d'imprégner votre expérience. La méditation éveille en vous la réalisation de la nature illusoire et chimérique de toute chose. Maintenez cette lucidité au cœur même du samsara. Un grand maître disait : après la pratique de la méditation, on devrait devenir un enfant de l'illusion. Dzogchen Rinpoche donnait le conseil suivant : en un sens, tout est illusoire et possède la nature du rêve. Pourtant, malgré tout, continuez à agir avec humour. Si vous marchez, par exemple, dirigez-vous d'un cœur léger, sans raideur ni solennité inutile, vers le vaste espace de la vérité. Quand vous êtes assis, soyez la citadelle de la vérité. Quand vous mangez, emplissez le ventre de la vacuité de vos négativités et de vos illusions. Laissez-les se dissoudre dans l'espace qui pénètre tout. Quand vous allez aux toilettes, considérez que tous vos obscurcissements et tous vos blocages sont par là même purifiés et éliminés. Ce n'est donc pas seulement la pratique assise qui importe, mais bien plus l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez après la méditation. C'est cet état d'esprit calme et centré qu'il vous faut prolonger dans chacune de vos actions. J'aime cette histoire zen où le disciple demande à son maître. Maître, comment appliquez-vous l'éveil à l'action? Comment le mettez-vous en pratique dans la vie de tous les jours? En mangeant et en dormant, répond le maître. Mais maître, tout le monde mange et tout le monde dort. Mais tous ne mangent pas quand ils mangent, et tous ne dorment pas quand ils dorment. D'où le célèbre adage zen, quand je mange, je mange, quand je dors, je dors. Manger quand vous mangez, dormir quand vous dormez, signifie être totalement présent dans chacune de vos actions, sans qu'aucune des distractions de l'ego ne vous éloigne de cette présence. C'est cela, l'intégration. Et si vous souhaitez réellement l'accomplir, vous ne pourrez vous contenter de considérer la pratique comme un simple remède ou une thérapie occasionnelle. Elle devra devenir votre nourriture quotidienne. Voilà pourquoi il est excellent de développer cette capacité d'intégration dans le cadre d'une retraite, loin des tensions de la vie citadine moderne. Les gens viennent trop souvent à la méditation dans l'espoir d'obtenir des résultats extraordinaires. Par exemple des visions, des lumières ou des phénomènes miraculeux. Lorsque rien de tout cela ne se produit, ils sont très déçus. Pourtant, le véritable miracle de la méditation est plus ordinaire et bien plus utile. C'est une transformation subtile qui se produit non seulement dans votre esprit et dans vos émotions, mais également dans votre corps. La méditation possède un important pouvoir de guérison. Savants et médecins ont découvert que si vous êtes de bonne humeur, les cellules même de votre corps sont plus joyeuses. Si par contre, votre état d'esprit est négatif, vos cellules peuvent devenir malignes. Votre état de santé général dépend beaucoup de votre état d'esprit et de votre façon d'être. C'était Le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Prochaine émission. Suite. Ramener l'esprit en lui-même. L'inspiration. Merci. Et à bientôt dans la quatrième dimension.